La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours en direct de l'Hippodrome Paris-Longchamp pour vous faire vivre cette sixième édition de la REF, organisée chaque année par le MEDEF, dont Radio Immo et Radio Territoria sont les partenaires médias officiels. Et je suis ravi d'être accompagné par Sylvain Lévy-Valency. Ça va bien toujours?
Écoutez, ça va, il fait chaud quand même.
Oui, ça commence un
petit peu. Mais c'est plus agréable que quand il pleut quand même.
Oui, on va pas se plaindre, c'est clair. Puis on est un petit peu à l'ombre là. Puis...
Alors, on est bien.
Et on reçoit de nombreux invités pour vous faire vivre cet événement en direct. Et je suis ravi de recevoir Anaïs Glemeur. Bonjour.
Bonjour.
Députée du Finistère, à Quimper, c'est ça?
À Quimper.
Précisément. Exactement. Voilà. On va parler de votre actualité, bien évidemment, mais je profite de votre présence ici sur la REF. Pourquoi c'est important, même si j'ai une petite idée de la réponse, mais pourquoi c'est important pour un député, une députée, d'être présente sur ce type d'événement-là?
Alors déjà, je suis membre de la Commission des affaires économiques, donc c'est
déjà,
pas un hasard.
Voilà.
Déjà, c'est normal d'être là et c'est l'endroit où en fait on peut rencontrer l'ensemble des acteurs du monde économique,
ouais,
échanger avec eux. Et puis c'est un moment aussi de convivialité où on peut parler peut-être franchement avec un discours autre et pouvoir se mettre aussi des calendriers, des temps de rencontre et être dans du prévisionnel. Et c'est un moment d'écoute, de perception. On est dans une période un peu particulière, donc du coup, échanger est toujours important dans ces périodes d'incertitude. Et donc, voilà, il faut qu'on soit là. C'est notre rôle d'être au contact. C'est le rôle des élus que de l'être. Donc, je suis élu, je suis au contact et je viens discuter avec tout le monde.
Et sur ces deux jours, quel ressenti vous avez là?
Alors, beaucoup de questions, un peu d'attentisme.
Bah, oui.
Les gens attendent de savoir, un, qui sera Premier ministre, mais
oui,
demain, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui et comment,
quel gouvernement,
quel projet, surtout quel projet pour l'avenir. Est-ce que demain, on va changer complètement la donne en mettant un salaire à 1 600 euros,
oui,
pour tous?
Alors, ce sera qui, le prochain Premier ministre?
Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas les cartes pour le savoir, je n'ai pas de boule de cristal pour connaître la réponse. Après,
ce qui serait bien, c'est que vous soyez ministre du logement, je vous le dis.
Ça, c'est pas moi qui décide de toute façon. Donc, à la fois, je pense qu'il faut s'attacher beaucoup au projet et à ce qu'on va pouvoir construire. Il y avait une demande suite à ces élections de pouvoir s'entendre et pouvoir travailler ensemble. On l'a déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait en tant que parlementaire. Faire du transpartisan, on sait le faire. Maintenant, il faut peut-être le faire au niveau d'un gouvernement. Bon, on le fera avec des idées, avec du consensus. Par contre, il faut que chacun soit capable de consensus. C'est pas...
Évidemment. Sinon, on n'avancera pas.
Voilà, on n'avancera pas. Au bout d'un moment, c'est le vivre ensemble, mais c'est aussi le travailler ensemble et diriger ensemble. Donc,
Il y a Sylvain qui disait quelque chose à l'instant qui était très intéressant, qui disait qu'il vous verrait très bien ministre du logement. Ce à quoi vous répondez, c'est pas moi qui décide. Alors moi, je retourne la question différemment. Mais si on vous propose, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accepter?
Après, c'est un axe de travail que j'ai porté depuis 2022,
ben oui,
et même avant. Même
bien
avant,
sûr,
je me suis
sûr,
toujours un peu...
Bien sûr.
C'est un sujet passion, je veux le dire, parce que c'est un sujet qui touche quand même notre territoire avec un investissement fort. C'est du réalisme pour moi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, tous les travaux que j'ai menés, je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Le but du jeu, ce n'est pas d'être ministre.
Oui, bien sûr.
Je suis claire. Le but du jeu, c'est que les choses soient prises en compte, que les projets que nous portons ensemble, parce que souvent, les projets ne sont pas qu'à mon initiative, mais c'est un moyen de travailler et de faire la synthèse. Maintenant, il y a plein de personnes qui sont capables d'être ministre du logement. Donc, voilà, moi, je veux juste être en capacité de faire changer les choses demain.
Ouais.
Alors que ça se fasse au Parlement ou que ça se fasse dans un gouvernement, avec la nouvelle disposition peut-être de cette coalition qui va venir, peut-être que les propositions du Parlement auront peut-être plus de poids des fois que des propositions ministérielles. Donc là où il faut être, je ne sais pas si c'est être au gouvernement qui aura du poids ou être effectivement membre peut-être d'un groupe transpartisan au sein de l'Assemblée qui pourra porter ses fruits. Moi, je veux juste...
Être au cœur de l'action.
Au cœur de l'action et faire. Et dans le faire, pas juste dans le discours. Et moi, je veux qu'on agisse.
Alors, on s'est vu quelques jours, quelques semaines avant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était avec notre ami Laurent Pernas, président de la SOFIAP. Et alors moi je vous félicite parce que voilà, j'apprécie particulièrement votre travail et vous êtes une élue qui ressemble assez bien à ce que souhaitent les Français aujourd'hui. Néanmoins, on a quand même bien vu que c'était un cataclysme, une défaite cuisante aux élections européennes, puis la dissolution. Une dissolution qui s'est faite dans des conditions absolument surréalistes, au mépris total de toutes les règles institutionnelles et autres. Et on a en plus un président qui tarde à vouloir nommer un Premier ministre, là aussi au mépris de toutes les formes institutionnelles. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que votre passion ne s'est-elle pas émoussée justement sur la majorité présidentielle ou est-ce que vous gardez toujours votre côté électron libre, libre de penser, libre de dire ce que vous souhaitez, comme vous l'avez toujours fait?
Voilà, moi, ça n'a pas changé forcément la donne pour moi, parce que, en fait, j'ai toujours eu ma capacité d'expression et de trouver les bons interlocuteurs au bon moment, parce que c'est bien d'avoir une belle parole, mais il faut savoir aussi à quel moment la placer et garder cette fermeté, cette pugnacité. Je pense que c'est ce qui me définit malgré tout. Oui. Maintenant, j'analyse pas les choses tout à fait de la même façon. C'est vrai qu'il n'y avait pas de...
Ça vous a surpris quand même.
Ah, ça nous a surpris. Moi, en plus, d'autant plus que j'avais quand même des projets sur ma proposition de loi. Donc ça a été pour moi...
Vous n'aviez rien vu, personne.
Non, moi je me suis assise dans la rue et j'avoue que j'ai été complètement anéantie sur le moment. Ouais. Parce que, en premier temps, pour les travaux que j'ai pu mener depuis 3 ans, c'était la fin. Parce que, alors qu'on avait eu un combat long. Et puis après, c'est si c'est ainsi, il faut y aller. Donc le combat, je suis repartie tout de suite dans la seconde en me disant j'y retourne de toute façon et je vais tenir bon. Et je vais tenir bon, non pas pour moi, mais pour les idées, les valeurs que je porte.
Et défendre les travaux que vous aviez menés.
Bien sûr.
Parce que votre loi avait été accueillie très favorablement, vous le savez, par les professionnels et l'ensemble de l'industrie. Vous avez été, notamment la loi sur le meublé saisonnier, vous en avez,
de tourisme,
vous en avez parlé, et surtout les élus locaux. Qui attendait cela, cette fameuse boîte à outils. Donc j'aime beaucoup le terme que vous utilisez d'ailleurs quand vous parlez de cette loi comme une boîte à outils à disposition des élus locaux, était quand même sacrement dépourvu. Qu'en est-il justement de ce projet? Il n'est pas enterré là?
Alors le soir, effectivement,
de l'annonce,
je me suis dit mince, ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était inédit d'avoir cette situation-là. Et en fait, je me suis renseignée un peu depuis quand même.
Parce que la loi n'avait pas été adoptée encore.
Alors la loi, avait été votée à l'Assemblée et au Sénat, donc les deux chambres l'avaient votée. Mmh. Par contre, on n'avait pas eu la commission mixte paritaire, le vote définitif.
D'accord.
Donc il nous restait, mais la commission mixte paritaire avait déjà été convoquée. Donc de ce que j'ai appris, et tant mieux,
c'est qu'il nous,
on a juste besoin de reconvoquer la commission mixte paritaire et on peut passer au vote. Seulement, la composition du Parlement à l'Assemblée nationale a changé. Sénat, non.
Donc,
au Sénat, on est stable. Donc, il va falloir estimer aussi les forces en présence. Maintenant, sur la première... Mais on trouvera une majorité, parce que sur le premier passage à l'Assemblée nationale, c'est seulement le Rassemblement national qui ne l'avait pas voté. Donc là, c'est vrai, ils sont plus en nombre, mais... En face, on peut être, il faudra être plus mobilisé, mais ça devrait passer.
Ouais.
Je suis assez optimiste malgré tout quand on voit l'intérêt.
Les députés du Rassemblement national ont voté contre cette loi.
Ils ont voté contre, oui.
C'est stupide.
J'espère que pendant leur campagne, ils ont bien vu que les attentes étaient fortes.
Non, mais attendez, c'est stupide. C'est la première loi qui met enfin un peu d'équilibre. Non, mais c'est incroyable.
Bah oui.
Incroyable. Est-ce qu'on peut rappeler, Naïg, Le Meur, les grands contours de cette loi que vous aviez initié?
Voilà, elle a une volonté première qui est une volonté d'équité, d'équilibre et de réajustement. Et dans une notion d'équité, on a un premier dispositif qui est le diagnostic énergétique pour tous, on va dire, globalement. C'est-à-dire qu'avant, seules les résidences de location à l'année étaient soumises au DPE. Là, on le met pour tous. Pourquoi? Non pas pour embêter les gens, mais pour... contrer cet effet d'éviction, fait. Ça veut dire qu'il y avait un stratagème qui faisait, comme je ne veux pas faire de travaux, je ne vais pas mettre en longue durée, je vais mettre en courte durée. Donc c'est beaucoup plus facile, en plus je gagnerai plus.
Mesure d'inéquité, absolument.
Voilà. Les gens qui ne voulaient pas faire de travaux ne les faisaient pas, ils mettaient en courte durée. Deuxième temps, c'est la fameuse boîte à outils, où là, dans un premier temps, on a une volonté déjà d'identification. C'est-à-dire qu'on va mettre un numéro d'identification, un numéro d'enregistrement. Les gens qui vont faire la location de courte durée devront s'enregistrer en mairie. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de données du tout sur le logement. Ça a été une difficulté énorme que de trouver, en fait, avoir une connaissance de réellement ce qui se faisait et pouvoir faire du contrôle. Et derrière, en fait, la deuxième mesure, c'est la possibilité de mettre notamment des quotas, donc qui est une mesure importante. Et une petite nouveauté qui a été permise aussi pour les maires, qui était pour moi la mesure la plus disruptive, qui est l'une des plus attendues, c'est mettre une mesure de servitude de résidence principale. C'est-à-dire que quand vous allez mettre à bâtir des biens, vous pourrez dire, ceux-là, ils sont désignés dans un usage qui sera uniquement la résidence principale. Normalement, dans un PLU, vous ne pouvez pas désigner un usage. Là, en mettant une notion de servitude, on pourra le faire. Donc les maires pourront le faire. Et le troisième volet, alors il y en a plein d'autres, des volets, mais c'est la fiscalité.
La révision de la fiscalité
qu'on avait fait.
Qui était le gros point d'achoppement.
Alors c'était la première fois que quelqu'un mettait dans une proposition de loi parlementaire de la fiscalité, parce que normalement c'est réservé au projet de loi finances, et parce que nous on n'a pas d'étude d'impact, donc mettre une mesure fiscale sans étude d'impact, c'était quand même assez culotté de notre part, je le dis, c'était un peu de la provocation. On l'a fait, c'est passé, parce que tout le monde a considéré que c'était une mesure de justice, donc face à l'impôt.
D'équité fiscale,
parce qu'en fait, il n'était pas juste que quand vous louiez à l'année un logement nu...
Mais surtout, pour le propriétaire, en disant, attendez, vous voulez remettre du logement... Parce que l'idée, c'était aussi de remettre du logement longue durée.
Bien sûr.
Pour des personnes premiers bénéficiaires, et l'idée de la servitude, c'est aussi de repeupler des villes, puisque la destination, c'est la résidence principale, même si on sait, vous et moi, qu'il y a des personnes qui se domicilieront certainement en résidence principale dans ces lieux-là, mais bon, peu importe. Quelque part, ça remettait finalement l'église au milieu du village et redonnait en fait une équité pour remettre des biens sur le marché, parce que vous aussi qui êtes dans une région dans laquelle il y a une forte attrition en termes de location, c'était de donner un peu d'offres à des personnes qui ne trouvent plus le logement. Quoi.
Il ne fallait pas que la fiscalité soit une excuse pour ne pas aller vers du logement de longue durée.
Absolument.
Il y a suffisamment de raisons déjà pour que le logement de longue durée soit un petit peu un repoussoir, pour des questions d'impayés notamment, des questions de bail où on ne peut pas récupérer son bien dans un délai court. Donc il y a déjà pas mal de contraintes sur du logement de longue durée. Il ne fallait pas rendre plus avantageux fiscalement. Déjà qu'on touche plus de loyers, on est beaucoup plus avantagés qu'on fait de la courte durée, mais en plus, fiscalement, on ne payait rien. Donc, il y a un moment, il y avait 70% des gens qui sont au régime réel ne payent pas d'impôts, et plus cumulent un déficit budgétaire qui est reportable sur leurs revenus autres. Donc, ça suffit. Il y a un moment, c'est pas juste. C'est pas juste vis-à-vis de gens qui louent à l'année, qui prennent des risques, et qui du coup, jouent le jeu de l'emploi, parce que derrière, c'est de l'emploi. On est là au MEDEF. Donc derrière, effectivement, nous, on a des entreprises chez nous qui ne peuvent pas recruter par défaut de logement. Donc il y a un moment, c'est pas possible.
Il est probable donc que cette loi enfin voit le jour, réellement.
Ah ben oui, moi je suis convaincue, je ne lâcherai pas. De toute façon, je reste déterminée.
Avant la fin de l'année ?
Oui. Moi, je ferai tout pour. C'est un bon signe quand même de montrer que cette loi transpartisane montre qu'on est capable de faire du transpartisan.
De s'entendre.
Donc si on cherche un signe de quelque chose, c'est le signe majeur.
On s'en fera l'écho, c'est une
certitude. Oui, on en reparlera évidemment. J'ai une question à vous poser, Anaïs. En tant que député, là, on sait donc qu'on a un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes, c'est l'expression qui est utilisée. Mais la députée que vous êtes, vous gérez aussi les affaires courantes. Qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période ? L'activité de député se résume à quoi ?
Oui,
bonne question. Comment est-ce que vous expliquez ça aux personnes qui sont allées voter pour vous, par exemple ?
Alors, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a du temps pour faire du terrain. C'est un petit peu... habituellement, effectivement, on est très capté par la vie législative et donc, du coup, par Paris. Et là, ça nous permet quand même d'être sur le terrain et d'aller à la rencontre justement des citoyens, soit de façon très naturelle, soit avec des rendez-vous entreprises ou des rendez-vous mairie, élus, etc. Mais ça permet aussi, en fait, d'avoir un temps où il y a des sollicitations au quotidien. Alors, c'est vrai que ma proposition de loi, plus mon projet, j'ai fait un rapport sur la réforme de la fiscalité locative au sens large, que j'avais remis à Gabriel Attal, juste avant. Il y a des missions, la veille, il a été publié, j'ai un peu poussé. Hein. Et donc du coup, ça a amené beaucoup d'interactions, notamment avec les citoyens sur les réseaux et par mail. Donc ça nous permet aussi de répondre aux citoyens sur des inquiétudes qu'ils ont par rapport à leur projet financier qu'ils avaient mis en place, leur business plan, etc. Donc ça me permet de prendre un temps d'échange avec des citoyens par mes équipes et par moi-même. Des fois, je prends simplement mon téléphone et je les appelle. Je suis un peu étonnée que la députée appelle les appels alors qu'ils ne sont pas du tout de ma circonscription. Des fois, je prends au hasard.
Ouais, ouais.
Et du coup, c'est des moments de partage intéressants. Donc, c'est des moments qu'on s'offre, qu'on n'a pas toujours le temps de faire.
Ouais.
Moi, je ne peux pas appeler les gens au quotidien.
C'est clair.
Et ben là, je prends mon téléphone et puis hop, j'appelle. Je dis bonjour, vous m'avez envoyé un mail. Je voulais vous donner des précisions. Et ben, c'est un temps d'échange et qui n'est pas électoraliste, hein, parce que c'est même pas de ma circo des fois. Donc.
Ouais. Il y a un député qui m'écrit. Il m'appelle. J'envoie un mail et elle m'appelle.
Ouais. Ah oui, il y a un effet de surprise qui est...
Non mais, vous n'avez pas idée de la tête qui vous fait, là. Vous vous écartez du micro, on ne vous entend même plus.
Ah bon, on ne m'entend plus, là.
Voilà.
Méfiez-vous, parce que c'est la première fois qu'on me dit ça, quand même. Non mais, j'imagine la tête de celui qu'on appelle, qui envoie un mail et qui se dit, on ne me répondra jamais.
Ouais.
Là. Et puis, deux jours après... vous avez un député qui vous appelle, qui dit « Bonjour, vous m'aviez écrit par mail, etc. » Il dit « Ouais, c'est une blague.
Ouais, je raccroche.
Allez, Raoul, c'est toi. Non, non. »
Elle était surprise, mais elle était ravie. Hein. On a eu un bel échange.
Moi, je trouve ça génial.
Et bon, après, c'était plus simple pour moi aussi de l'avoir directement en ligne, parce que ses questions étaient très précises, plutôt que d'aller lui faire un mail qui m'aurait pris plus de temps en soi, où on n'aurait pas forcément répondu à l'attente. Au moins, là, on était en direct. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, ce n'est pas possible. Mais bon, voilà.
Quand est-ce qu'on aura un Premier ministre? On ne sait pas qui, mais quand? Au plus tard?
Je ne sais pas, je n'ai pas de boue là non plus.
Il y a
la cérémonie demain des Jeux paralympiques qui sont importants, donc je pense que ça va être compliqué de le faire dans le même temps. Après, il y a un départ en Serbie.
Il ne va pas attendre la fin des Jeux paralympiques, là,
non,
qui dure 10 jours.
Je ne pense pas.
Ça dure 10 jours,
oui. Mais quand même.
Oui, non, mais bien sûr.
Après, moi, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on est aussi dans un rapport d'écoute et d'entente, parce qu'on aurait pu nous reprocher de décider de désigner un Premier ministre sans avoir consulté. Et là, on va nous dire, ils n'ont pas consulté, vous n'avez pas respecté la démocratie, etc. Ah ben si, ça,
vous êtes trop
je peux l'entendre.
Non, mais vous êtes trop forte, voilà. Alors, c'est extraordinaire, vous êtes trop forte. On vous pose une question, on dit, le gars, il traîne, il consulte ou consulte peu, en tout cas, il résiste à quelque chose qui est quand même inédit dans la Ve République. On a quand même une nouvelle assemblée, il a loupé les élections européennes, les Français l'ont congédié. Mais non, on n'a toujours pas de gouvernement. Je trouve ça extraordinaire. Et vous l'expliquez par comme ça, moi je trouve ça extraordinaire.
Oui, mais il aurait imposé.
Vous avez quand même.
Vous allez me dire, il a imposé.
Vous n'avez pas une petite critique pour le comportement de notre président de la République? Même pas une petite.
Bah, je peux en trouver, mais je ne vais pas le dire là par le micro.
Voilà.
Donc, parce qu'il faut toujours avoir un sens critique. La critique peut être aussi positive.
Hein. Non, mais attendez, ça n'empêche pas le débat. Enfin, quand même, Anaïg.
Mais moi, je pense qu'il est quand même important que la décision se fasse rapidement.
Le camp macroniste, à juste titre, prend une claque, à juste titre, c'est-à-dire qu'ils l'ont bien cherché. Ils ont mis toute une industrie immobilière à genoux, une industrie du bâtiment à genoux. C'est 55 000 entreprises qui vont déposer le bilan là, j'ai vu les statistiques. C'est plus de 180 promoteurs qui vont cesser leur activité, 1500 agences immobilières, des propriétaires qui désinvestissent. Et finalement, ce sont les Français qui sont à la rue, qui restent dans leur petit appartement, qui n'ont plus les moyens d'acheter. Et là, tout va bien. On a un président de la République qui fait passer le message en disant « Le prochain dossier qu'il faudra ouvrir, c'est le logement. » On a Gabriel Attal, qui est touché par la grâce, se dit « on va peut-être parler de logement. Je trouve que c'est un super... » Il va sur un programme en disant « On va exonérer les droits de mutation à hauteur de 250 000 euros, etc. » On a un Bruno Le Maire qui fait un mea culpa surréaliste.
J'ai été très bonne alors.
J'ai
tous les voir pour leur parler logement. Donc moi je suis ravie.
Et vous êtes d'ailleurs l'une des députées de la majorité que j'apprécie le plus parce que j'ai toujours trouvé que vous aviez un ton direct et que quelque part vous connaissez. Parce que vous avez un avantage, Anaïg Le Maire. Je pense que c'est un avantage et on gagnerait beaucoup à avoir plus de députés femmes à l'Assemblée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous maîtrisez parfaitement le dossier et les professionnels le savent. Et donc on peut discuter avec vous. Mais vous conviendrez, pardonnez-moi, que dans ces deux années de crise qu'on vient de subir, un nombre d'agréments pour les logements sociaux qui n'a jamais été aussi bas, un nombre de SDF qui a quasiment doublé, référence au rapport de la Fondation Abbé Pierre. Enfin, franchement, la cause, on la connaît. C'est la défaillance chronique des politiques publiques d'un président de la République qui n'a jamais cru que le logement était une priorité nationale. Voilà. C'est tout.
On voilà. peut aussi se satisfaire qu'il ait changé malgré tout en s'exprimant sur le sujet.
On fait de la politique, vous avez raison.
Voilà. Moi, je pense qu'il y a un côté... Moi, j'en suis ravie qu'enfin, je le dis clairement aussi. Moi, je trouve ça... On a trop attendu, mais je l'ai toujours dit. Parce que au bout d'un moment, on a bataillé.
Vous voyez bien le désastre des politiques délétères du logement. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de dispositifs d'aide à l'investissement après la mort du Pinel, il y a dans 4 mois. Vous savez que la RLS, la réduction du loyer de solidarité, a plombé, c'est 1,3 milliard de collectes par an, a plombé les finances des opérateurs et des bailleurs sociaux. Que l'augmentation des taux de directeurs de la BCE a doublé la charge financière des bailleurs sociaux, dont la nécessité est une évidence, c'est une question de survie. Et que l'habitat, outre le fait d'être protégé, est aussi une forme de déterminisme géographique et social dont on a aussi besoin dans notre société. Je trouve ça lamentable parce que vous savez ce que je trouve lamentable, c'est qu'on a des milliers et des milliers, voire des millions de Français mal logés encore, alors qu'on aurait pu réparer ça. Et que réparer la politique menée par Emmanuel Macron de manière délétère depuis tant d'années, eh ben on va mettre 3 années à réparer cette politique. Alors, vous êtes la députée que j'aime le plus chez les macronistes parce que je sais que je peux m'adresser à vous. En vous disant ça. Alors, bien évidemment, je comprends. Vous faites partie du camp de la majorité, donc vous allez trouver forcément une formule très habile pour justifier cette politique. Et c'est pour ça qu'on vous aime, d'ailleurs. J'adore parler avec vous.
Il est en roue libre, hein ?
Il est en roue libre, ouais. Mais bon.
Comme quoi, Naïk, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, la vitalité d'une démocratie, c'est pouvoir, en s'appréciant et de façon bienveillante, pas forcément toujours être d'accord. Et faire valoir nos arguments.
Tout à fait. Maintenant, je pense qu'il y a des arguments qu'on peut contrer, d'autres où effectivement les constats sont communs.
On a les constats communs.
On peut pas revenir sur le constat. Le constat, il est là.
Voilà.
Donc,
il y a une prise de conscience, tant mieux, à la limite.
Oui, constat, il est là. Est-ce qu'il aurait été autrement si on avait agi et agi sur quoi? Voilà, le constat, il est là. Maintenant, il faut œuvrer. Je suis désolée.
Il faut travailler et puis il
faut prendre des risques.
Il aurait suffi, par exemple, juste de garder le PTZ tel qu'il était, c'était très bien. Garder un dispositif final tel qu'il était, c'était très bien. Et ça aurait suffi. On ne demandait même pas plus.
Après, ce qu'il aurait fallu, c'était peut-être définir une stratégie logement, une stratégie d'aménagement de territoire.
Ah, je ne voudrais pas le dire.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est...
Ou de créer un vrai ministère comme à l'époque de Jean-Luc Barrault.
On va peut-être orienter effectivement les choix, comme ça a été fait sur le PTZ. On a orienté, mais selon quels critères et pourquoi.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie à long terme.
Qui soit.
Et là, elle est acceptable par tous dès lors qu'on la définit. Si on ne définit pas l'objet, on ne peut pas avoir une acceptabilité. Donc, si on veut unir les gens, c'est sur un projet commun.
Et vous le savez.
Donc, du coup, je pense que le problème qu'il y a eu, peut-être, c'est une multitude, en fait, comme il y a eu beaucoup de remaniements qui ont fait qu'il n'y a pas eu de stabilité.
Quatre gouvernements, cinq ministres, il n'y a pas eu de stabilité
sur le sujet, mais on n'a pas défini, en fait, un objectif, notamment d'aménagement de territoire. Qu'est-ce qu'on veut demain? Est-ce que demain, on veut réinvestir les ruralités? Et là, est-ce qu'il faut remettre, en fait, du coup, du PTZ pour développer, etc. Ou est-ce qu'on fait des centralités et qu'on urbanise plus des pôles et des métropoles? C'est une question d'aménagement de territoire. Donc là, il faut interroger les citoyens, interroger les entreprises, parce que ces entreprises sont des moteurs aussi pour déplacer, justement, des centres d'attractivité. Donc c'est tout ça. Il faut, parce que derrière, le logement, c'est aussi les mobilités. Donc il ne faut pas voir aussi le logement comme étant la solution à tout. S'il n'y a pas de transport, on ne va pas attirer des gens vers des territoires non plus. Donc il y a des hôpitaux nécessaires, des services, etc. Donc comment on conçoit la France de demain? Est-ce qu'on la conçoit avec des métropoles fortes et qui permettent justement de continuer peut-être d'exploiter des terres, parce qu'on a besoin d'avoir une agriculture forte toujours sur nos territoires. Moi, je le sais, en Bretagne, quand on a parlé de la loi ZAN, notamment, qui a fait hurler beaucoup de gens, je l'entends. Mais à la fois, chez nous, ça a rassuré aussi les agriculteurs de pouvoir dire qu'on va préserver leur emploi, préserver leur travail, pour pouvoir demain continuer à produire. Donc, il y a un moment, il faut entendre les deux, et c'est une question d'aménagement de territoire. Ce qui est valable pour un n'est peut-être pas valable pour d'autres.
Ce qui démontre bien qu'il était nécessaire, que le dernier grand ministre du logement, moi, que j'ai connu, c'était Jean-Louis Borloo, avec un ministère de plein exercice, mais on peut toujours rêver, une loi de programmation qui sanctifierait finalement une direction politique sur un temps suffisamment long pour porter ses fruits, parce qu'on ne peut pas concevoir l'aménagement du territoire lorsque chaque année, vous remettez les compteurs à zéro. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Mais oui, la continuité, la stabilité. Et il faut une stabilité en tout. C'est comme en fiscalité, il faut de la stabilité pour rassurer les gens, pour continuer à investir. Là, on ne trouvera pas des investisseurs si on ne sait pas demain ce que sera l'aménagement du territoire. Si demain, vous allez investir dans une ville qui ne sera pas portée par des projets industriels ou des projets de mobilité, eh ben, vous serez du coup dépourvu ou dépité si vous avez investi à un endroit. Et vous direz, ben, j'ai pas eu la renta que j'espérais, machin. Et donc, du coup, on va se défausser, on n'ira plus investir, on ira sur de l'assurance vie.
Absolument.
Donc,
on peut se mettre à la place des investisseurs.
Voilà,
ils n'iront pas.
Exactement.
Voilà.
Donc, il faut leur donner une garantie. Une garantie.
Absolument, absolument. Il faut rappeler que les bénéficiaires du logement privé, qui sont les deux tiers, quasiment les 62%, sont éligibles au logement social. Mmh. On a besoin des investisseurs et des petits propriétaires bailleurs. C'est bien de le rappeler, et votre loi vient justement, et là je m'en félicite, rétablir un véritable équilibre, et c'est bien pour les propriétaires bailleurs, et que le signal soit bien entendu.
Un très grand merci à vous, Annick Lemeur, d'être venue nous voir. Bonne continuation.
Merci.
Merci également à vous de votre fidélité. On était ravis avec Sylvain et sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria de vous faire vivre cette 6e édition de la REF. Et on se dit quoi l'année prochaine ?
Alors, on se dit déjà demain.
Évidemment.
Nos programmes continuent. On se retrouve sur Sud Radio tous les samedis matins.
Oui.
On se retrouve également pour nos chroniques sur BFM Business, sur nos radios tous les vendredis dans le MAC de l'Immo. Et on va se donner rendez-vous sur un événement. Vous venez au congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Montpellier ?
J'ai pas encore regardé mon planning, j'avoue que je suis un peu en mode, je regarde jour après jour, donc avec plaisir si j'y suis.
Voilà. Alors je sais pas si vous allez aux assises de l'immobilier à Metz.
Si, bien sûr, je dois intervenir là-bas justement.
Voilà, c'est Cédric Laveau qui est le fondateur, et vous savez que je suis le co-animateur de ces assises, mais cette année exceptionnellement je ne pourrai pas m'y rendre car je suis appelé ailleurs, mais ce sera un très très bel événement, je suis très heureux que vous y soyez. Guillaume Casbarian à l'origine je crois devait y aller, mais je crois qu'il n'y sera pas, et donc c'est bien qu'on ait une élue de la République, voilà, bravo pour ça.
Merci beaucoup Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria. Salut, bye bye.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.